avons. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur du jugement? Hein? On a toujours fait le bien, on n'a pas tué une mouche, bande de menteurs que nous sommes. On dit qu'on n'a pas tué une mouche, on a fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'on en a tué des mouches? Hein? Des maringouins, tout ce que vous voulez. On est plein de crimes ici. On dit qu'on n'a pas tué une mouche. Mais on est tellement faussé qu'on a fait de mal à personne. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère. C'est tout négatif, ça. Quand tu n'as pas tué, tu n'as pas encore aimé. Quand tu n'as pas volé, tu n'as pas encore donné. Quand tu n'as pas commis adultère, tu n'es pas encore un saint, hein, dans tes pensées. Si je suis Jésus qui dit que quand nous avons regardé une femme et que nous l'avons convoitée dans notre cœur, nous avons déjà commis l'adultère. Mais c'est ce qui fait dire à un jeune homme qui est venu me trouver et qui faisait partie d'une assemblée. Puis, il fréquentait une jeune fille. Puis, j'ai osé lui poser la question, mais tu as couché avec elle? Monsieur Racine, puisque Jésus dit que quand on l'a convoité, c'est comme si on avait commis l'adultère, alors je l'ai fait. Mais alors, bibliquement, on se justifie, puisque de toute façon, je l'avais convoité, alors je ne fais pas plus mal. Vous voyez comment on peut même se servir de la parole. Alors, il nous faut éclairer ces jeunes. Alors, on justifie tout, puis même au nom du Seigneur. Ah, mes amis, nous sommes dans les derniers jours. Hein, et puis, nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'on craint la mort. On craint la mort à cause du jugement, c'est très bien ça. Et puis pourquoi est-ce qu'on craint le jugement? Ben malgré qu'on n'a jamais fait de mal, on n'est pas si sûr que cela. Et quand on est sur le principe des œuvres, on n'est jamais sûr d'en avoir fait assez des bonnes œuvres. Hein. Est-ce que vous avez fait assez de bonnes œuvres pour que dans le plateau des bonnes œuvres, ça fasse lever le plateau du péché? Tout au fond, on craint la mort à cause de nos péchés. C'est le péché. On nous dit au Québec, ah, ne nous parlez plus de péché, on nous a tellement culpabilisé avec le péché. Employez des synonymes. Voilà ce que des prêtres m'ont dit quelquefois. Ne nous parlez pas du péché, on nous a culpabilisé. Et puis Dieu, c'était le père Fouettard, là, qui avait le bâton et qui, on nous disait, Dieu te voit, Dieu te voit. Et puis, alors il faut se déculpabiliser, alors ne parlons plus de péché. Non, nous ne voulons pas escamoter les choses, nous voulons voir le péché en face. Parce que nous savons que c'est comme cela qu'on peut en être libéré. Nous pouvons le confesser, et quand nous avons confessé nos péchés, nous savons qu'en Jésus-Christ, nos péchés ont été portés, qu'ils ont été expiés. Nous connaissons le sens de la mort de Jésus, il est mort pour nos péchés. Et le pardon que Dieu nous donne, eh bien, c'est pas un coup d'éponge sur nos péchés, c'est une justice qui a été satisfaite. Le prix de nos péchés a été payé, non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux du Christ. De sorte que, en Jésus, quand nous avons Jésus, nous avons vraiment ce que Jean-Baptiste disait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Dit saint Paul, c'est le péché. Au fond, la crainte de la mort, on l'a à cause du péché. Mais si on va à Jésus, Jésus a subi le jugement pour nous, de sorte que nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne venons pas en jugement. Il a subi le jugement pour nous, il a expié nos péchés, Dieu ne s'en souvient plus, alors que dans nos cultes, nous ne ressassions pas toujours nos péchés, mais que nous allions à Dieu avec des louanges, et que nous ne rappelions pas toujours notre vie passée. Notre vie de péché, elle est passée, Dieu ne s'en souvient plus. Alors qu'est-ce qu'il voudrait entendre de nos bouches? La louange, la gloire, l'honneur, il nous a délivrés de nos péchés. Alors, nous le contemplons, nous ne nous regardons plus nombris, toujours notre misère, toujours nos yeux fixés sur nous-mêmes. Nous contemplons Jésus. Et en contemplant Jésus, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. L'aiguillon de la mort, Jésus l'a pris. il l'a ôté, il est mort avec l'aiguillon de la mort, car s'il est mort, il est mort pour nos péchés. L'aiguillon de la mort a été ôté. Alors on peut dire, ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, ta victoire, parce que Jésus est ressuscité. Il est entré dans la mort, il a vaincu l'homme fort, celui qui avait la puissance de la mort, et il est ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est vivant, et la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts est la puissance qui doit nous faire vivre maintenant dans ce monde, comme nous le verrons demain, si Dieu nous amène à demain, parce que nous sommes encore dans le monde, hein, avec toutes les contingences, toutes les obligations, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Mais qui est-ce qui a vaincu le monde? Jésus. On en revient toujours à cela. Jésus a vaincu non seulement Satan, non seulement la maladie, il a vaincu aussi la mort, et nous l'avons ici, la mort de la petite fille. Combien de résurrections a-t-il fait, enfin, qui nous sont mentionnées dans l'Écriture? Il y en a trois, hein. Il y a la résurrection de la petite fille, là, dans sa chambre. Il y a la résurrection du fils de la veuve de Naïm, chapitre 7 de Luc, sur le chemin du cimetière. Est-ce que le fils de la veuve de Naïm était plus mort que la petite fille? Parce qu'il était déjà sur le chemin du cimetière. Et la troisième résurrection, c'est qui? Lazare, où était-il? Dans le tombeau, la pierre était roulée sur lui. Hein. Alors, spirituellement, nous avons un enseignement à apprendre. Nous étions tous morts dans nos fautes et dans nos péchés. Quand il est dit qu'il n'y a pas de différence, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, on dit, mais quand même, il y a une différence entre moi et certaines personnes. La différence n'est que dans le degré de corruption. Comprenez-vous? La petite fille dans son lit, elle était encore dans son lit, elle avait peut-être encore quelques couleurs, mais elle venait de mourir. La corruption n'était pas avancée, n'avait pas encore commencé, mais ça allait commencer. Hein. Jésus l'a ressuscité. Mais c'est au fond, elle a eu 12 ans, c'est le péché en pensée, hein, mais nous sommes déjà coupables et nous avons besoin de la vie du Seigneur. Personne ne connaît encore bien qu'elle est morte, elle est dans la maison. Et puis, alors sur le chemin du cimetière, le fils de la veuve de Naïm, c'est déjà public, là. C'est déjà public, mais le cortège de la vie rencontre le cortège de la mort, et le cortège de la mort s'arrête, Jésus s'approche, quand il la vit pleurer, voyez ses compassions, quand il voit cette femme pleurer, ne pleure pas, mais ne lui dit pas seulement une parole, il ressuscite son fils, et il rend son fils à sa mère, et puis Lazare, eh bien voilà, ce Lazare, mais Seigneur, pourquoi il a reçu un message, puis il reste encore là 2 jours. Puis pourtant, c'est son ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. Puis il est bien souligné que Jésus aimait Marie. Moi, j'aurais écrit Marie d'abord, hein, mais Jésus, vous voyez, pour nous enlever l'idée qu'il y en a une qui était moins aimée que l'autre, parce que nous, on aurait dit Marthe, hein, Marthe, c'était la cuisinière. Jésus aimait la cuisinière. Et puis, il aimait aussi Marie, qui a été à ses pieds. Il a le même amour pour les uns et pour les autres. Il aimait Marthe et sa sœur. Et Lazare, c'est beau, l'équilibre de Jésus. Vous êtes tous aimés du Seigneur. Prenez votre place dans le cœur du Seigneur. Prenez-le vous-même et jouissez de son amour. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il reste encore là 2 jours? Puis tout d'un coup, il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, s'est endormi. Puis les disciples pensent, Et il va mieux, hein? Parce que si on dort, c'est qu'il va mieux. Non, c'était du sommeil de la mort. Et je vais pour l'éveiller. Pourquoi avoir attendu, puisque maintenant, il est mort. Puis alors les disciples ne pensent plus du tout à Lazare. Ils disent, mais Seigneur, tu ne vas pas aller en Judée. Tu sais très bien qu'on voulait te tuer en Judée. Hein. Peu importe pour eux Lazare, hein, mais c'est leur maître. Tu risques quelque chose. Jésus dit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Il faut que je marche pendant 6 jours. Parce que la nuit vient en laquelle personne ne pourra travailler. Oui, le moment de la mort allait arriver pour Jésus. Et il ne voulait pas l'éviter. Il a dressé sa face résolument comme un caillou. Mais il est allé à Béthanie. Ses sœurs qui attendaient. Qui arrive, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Elles disent la même chose, l'une et l'autre. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et il va le montrer. Il s'approche et dit, Lazare, hors dehors. Et voyez-vous, est-ce que Lazare était plus mort que les deux autres? C'était son degré de corruption qui était avancé. Il sentait déjà. Alors pour nous, ça nous montre que nous pouvons croire à la puissance du Seigneur sur tous les cas. La petite fille peut la sauver. Le jeune homme, déjà, qui est pris par certaines habitudes connues, hein, eh bien, il peut le sauver. Et celui qui croupit déjà sous la pierre de l'habitude, celui duquel on dit, c'est pas possible qu'il s'en sorte, hein. Il est trop mauvais, il est déjà corrompu, il sent déjà. C'est lui que le Seigneur va réussir. Il va donner la vie à celui pour qui vous n'espérez plus. Dans votre famille, peut-être, croyez-le, emparez-vous, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et que ces récits soient dans vos cœurs. Moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que ce n'est pas des théories. La Bible nous présente des cas, des hommes, elle nous montre leur puissance, elle nous montre leur faiblesse, et puis elle nous enseigne par la vie ces hommes. C'est pourquoi j'aime la Bible et j'aime suivre la vie de ces hommes. Bien, mes amis, voilà, vous pouvez méditer sur cette présence de Jésus qui nous délivre de la mort. Alors, pour nous maintenant, nous ne savons pas ce que nous devons choisir. Nous sommes comme Paul. Hein. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Et si je dois mourir, c'est un bien, car être auprès du Christ, pas une catastrophe, c'est de beaucoup le meilleur. Mais alors il faut que le Christ ait été une personne vivante pour nous sur la terre, et alors, bien voilà, je vais bientôt le voir. Mais comme nous le disions, ce n'est pas même la mort que nous attendons, c'est ça. C'est ça, et puis si nous devons mourir, bien même en passant par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et vous savez, c'était tellement beau de voir certains lits de mort où le père bénissait encore ses enfants et puis s'en allait. J'ai vu mon grand-père mourir, converti à 75 ans, mourir à 90 ans, alors qu'il avait été alcoolique et tout ce que vous voulez, grand fumeur, à sa conversion libérée complète. De tout cela, et vivant encore 15 ans, se nourrissant de l'écriture, et son départ, un départ lumineux, la tendue les bras vers le ciel, puis son corps est retombé dans son lit, mourir, aller vers son Dieu, dans la certitude absolue de son salut, et que le Seigneur ne nous souvient plus de nos péchés, nous nous inquiétons qu'il n'y a plus de jugement. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ pour être jugés quant à nos œuvres de croyants, mais non pas quant à nos âmes, car le Seigneur a supporté ce jugement. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quel repos céleste. Jésus, d'être à toi pour la vie et la mort. Toutes choses sont à vous. Les hommes, soit Christ, soit l'apôtre Paul, soit Pierre, nous-mêmes, nous sommes à vous. Et vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Et alors, nous voilà unis, libérés et vainqueurs, plus que vainqueurs, en celui qui nous a aimés. Ô Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir donné ton unique, ton bien-aimé, qui n'a pas voulu nous donner un exemple de vie, qui n'est pas remonté de la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie dans le ciel, nous ayant laissé un exemple que nous aurions dû suivre et qui nous aurait condamnés, qui nous aurait rendus malheureux car nous ne pouvons pas imiter. Mais tu as voulu être le grain de blé et tu disais, si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Tu as voulu qu'il y ait d'autres vies qui sortent de la tienne. Et ces vies-là, nous voulons en prendre conscience. C'est nos vies. Et c'est par nos vies que le monde peut croire que tu es ressuscité, que tu es vivant, que nous puissions vivre de cette vie de résurrection, que nous puissions vraiment rester dans cette mort que tu nous as rendue possible par ta mort. Tu nous prends avec toi dans ta mort pour qu'à notre vie passée nous en ayons terminé et que nous vivions de cette vie nouvelle du ressuscité. Autrefois, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions morts pour Dieu. Mais maintenant, nous sommes morts pour le monde, mais vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Que tu puisses nous préparer pour la rencontre de demain, que ce soit une rencontre décisive, et que nous sachions comment nous pouvons vivre dans ce monde, non plus écrasés et tourmentés, malgré tout le stress du temps présent, et que nous puissions connaître ce renouvellement dont nous parle ta parole, ceux qui se confient en l'Éternel renouvelle leur force, ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Que nos forces soient renouvelées pendant la marche. Nous te le demandons pour tous ces amis, pour tous ces bien-aimés, que tu veux accompagner ces filles et donne-leur autant encore dans leur sommeil. De nous parler, même dans notre sommeil. Nous te demandons tes grâces pour que demain, dans ce culte, nous ayons vraiment un culte d'adoration, un culte centré sur la personne du Seigneur, un culte où nous puissions lui dire quelque chose que nous avons découvert en lui. Ô Père, qu'il en soit ainsi, et que ton cœur soit réjoui en voyant les rachetés de ton Fils qui l'aiment et qui veulent le suivre et qui l'adorent. Pour la gloire du Seigneur, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Eh bien, ça nous rafraîchit de nouveau et nous sommes très reconnaissants de voir des personnes, des assemblées sœurs qui ont pu venir hier et aujourd'hui. S'il y en a qui peuvent venir encore demain, vous êtes les bienvenus. Nous allons terminer par le 281, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Monsieur Racine nous a dit que lui a eu la victoire pour que nous, à notre tour, à travers lui, nous l'ayons. Alors chantons deux fois ce petit chant qui nous fera le louer encore. 281.
Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est son nom qui nous protège. Que donnons-nous de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus.
Encore, il y a la boîte blanche en arrière pour recevoir les offrandes pour ceux qui voudraient soutenir le travail que M. Racine a ici au Québec et dans l'Europe, à différents endroits. Et aussi, il y a une collation en arrière, des livres à regarder, puis aussi des cassettes. Merci. Ceux qui voudront avoir des copies des cassettes de ces messages pourront signer une feuille qui est sur la table aussi de livres. Et c'est à travers le studio de Bethel que vous recevrez les cassettes et une facture qui ira avec. Marquez votre nom et adresse très clairement avec le code postal pour qu'on puisse vous les faire parvenir. Merci.
Eh bien, mes chers amis, nous voici déjà arrivés à notre quatrième et dernier exposé. C'est ce thème qui s'est imposé à moi quand je me suis tenu devant le Seigneur pour savoir ce qu'il voulait que je vous transmette au cours de ces messages. Et ce thème, nous vous l'avons fait connaître dès vendredi soir. Il est résumé par une parole du Christ ressuscité et parlant à ses disciples en Galilée, chapitre 28 de Matthieu, verset 18. Tout pouvoir ou toute puissance ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand le Seigneur s'impose une parole, j'essaye de la suivre et de m'attendre à lui pour que je n'arrive pas au milieu de vous avec du tout plaqué, mais que je me laisse conduire, inspiré par son esprit selon les besoins que je peux ressentir aussi sur le moment, de sorte que ce ne sont pas toujours des messages extrêmement structurés par une sagesse charnelle, mais des messages que le Seigneur donne sur le moment et selon les besoins que l'Esprit fait ressentir au plus profond de mon cœur. Mais dans le premier message, vendredi, nous avons vu qu'en effet, Jésus avait vaincu et avait tout pouvoir d'abord sur ce grand ennemi qu'est Satan, le diable, et que nous trouvons dès les premières pages de la Bible jusqu'aux dernières pages de l'Apocalypse. Et Satan, le diable, que beaucoup nient, est pourtant une réalité et nous avons vu à quoi nous pouvions reconnaître les signes du diabolisme, c'est au mensonge et au meurtre. Jésus nous a dit que Satan était un menteur et un meurtrier dès le commencement. C'est lui qui est à l'origine du mal et qui l'a introduit dans le monde. Mais par la toute-puissance de Dieu, par son grand amour, quelqu'un l'a vaincu. Et celui qui l'a vaincu, c'est le Fils unique de Dieu, à qui a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est vraiment ce Fils de l'homme qui un jour imposera son règne de justice et de paix dans ce monde. Nous attendons sa venue, la venue de Jésus comme sauveur. Il est déjà venu une fois, une première fois pour sauver nos âmes, comme l'agneau de Dieu et qui allait ôter le péché du monde. Il a tout accompli et il a triomphé à la croix de toutes les puissances qui pouvaient s'opposer à Dieu. Il est retourné dans la gloire d'où il était venu et il nous a dit que là, il nous préparait une place. De sorte que nous savons maintenant où nous allons. Notre vrai chez nous, c'est là-haut. Et c'est pourquoi nous devrions davantage penser aux choses qui sont en haut et être de ceux qui visitent déjà en esprit ces demeures aimables de la maison du Père. Ça nous permet de sortir de cet environnement affreux dans lequel bien souvent nous vivons pour connaître la cité céleste où nous sommes appelés à demeurer avec Jésus selon cette volonté expresse qu'il a exprimée à son Père. Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, et je veux croire que vous êtes de ceux qui ont été donnés par le Père à Jésus, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi. C'est merveilleux de savoir cela, n'est-ce pas? C'est la volonté du Seigneur de nous avoir auprès de lui. Mais pendant qu'il est dans la gloire, en attendant qu'il demande à son Père la domination du monde, il l'a déjà, mais il n'a pas encore fait cette demande que l'on trouve au psaume 2e, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. En attendant, il nous a laissé ici-bas comme témoins. Mais, puisque Satan ne peut plus s'attaquer au Seigneur lui-même, il s'attaque à ses disciples. Et nous avons vu le Seigneur avait acquis la victoire sur Satan pour que nous aussi, membres de son corps, participant de la vie de la terre, nous ayons aussi la victoire sur toutes les puissances démoniaques qui se démènent aujourd'hui et qui iront en augmentant. Mais comme chrétiens, nous devons traiter Satan comme un ennemi vaincu. Vaincu par Jésus-Christ. Et tant que nous sommes en Jésus-Christ, que nous nous tenons en Jésus-Christ, le malin ne nous touche pas. C'est pourquoi c'est le vrai remède à toutes les dépressions possibles. Vous dites non à Satan, car Satan est un ennemi vaincu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous connaissons ses rues, nous avons un discernement pour les reconnaître, nous connaissons ses pièges, nous savons comment les éviter, et Jésus nous a montré quelle attitude nous devions avoir vis-à-vis de Satan. Arrière de moi, Satan, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Qu'il soit un ange de lumière ou le lion rugissant ou le serpent sous les fleurs, nous savons discerner l'ennemi et nous pouvons échapper et être par la puissance du Seigneur qui a toute puissance plus que vainqueur en celui qui nous a aimés. Nous avons vu dans une seconde rencontre que le Seigneur avait tout pouvoir aussi sur la maladie. Et nous avons vu comment nous pouvions envisager la maladie être aussi vainqueur dans le Seigneur qui, ayant pris un corps de chair semblable au nôtre, est venu sur cette terre, allant de lieu en lieu, faisant du bien, entrant en sympathie avec tous ceux qui souffraient d'infirmité, de maladie ou de position, et les délivrant par son grand pouvoir. Toute autorité lui avait été donnée, et il avait autorité sur toutes ses puissances, et aussi sur la maladie. Il avait compassion des malades, et nous avons lu comment il a ainsi, dans sa vie, accompli la prophétie d'Ésaïe. Il a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Ce n'est pas à la croix qu'il a fait cela, c'est dans sa vie, c'est dans son ministère. En revanche, c'est sur la croix qu'il a porté nos péchés, afin que nous aussi, nous ne vivions plus toujours esclaves du péché, mais que nous puissions triompher du péché. Nous nous sommes donc occupés de la maladie, de cette révolte que l'on pouvait trouver chez le malade, de la résignation qui peut venir, mais qui n'est pas la vraie attitude, et de cette acceptation joyeuse que nous pouvons avoir, même quand nous sommes touchés dans nos corps, que ce soit pour la gloire de Dieu. Toute maladie ne vient pas de péchés cachés que nous n'aurions pas.